Merci à vous de recevoir l'édition de 17h ce lundi 4 décembre 2023. Au micro, je suis Rukaye Topdraman. Au sommaire, depuis les événements du 26 juillet au Niger et la dénonciation de certains accords avec la France, une coopération semble se développer entre la Fédération de Russie. Hier, une délégation russe est arrivée à Niamey. Les détails dans un instant. La diplomate Kathleen Fitzgibbon, nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger, a présenté ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération le samedi 2 décembre. La partie magazine de ce soir explique le délit de fuite selon la loi nigérienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le samedi 2 décembre, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. C'est ce qu'ont indiqué les deux pays dans un communiqué conjoint relayé par la presse. Une décision qui a pris effet rétroactivement le 29 novembre indique les deux pays. À sa création en 2014, le G5 Sahel est composé du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad. Le ministre d'État de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Moudi, a accueilli hier dimanche 3 décembre une délégation de personnalités russes. Aucune communication n'a été faite quant à la suite du programme de séjour de la délégation russe au Niger, rapporte l'agence nigérienne de presse. Depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, les relations entre le Niger et la Russie semblent se renforcer davantage, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel AES, dont les pays membres sont confrontés au phénomène du terrorisme. Kathleen Fitzgibbon, la nouvelle ambassadrice des États-Unis pour le Niger, a présenté le samedi 2 décembre les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Pour rappel, la diplomate Kathleen a été nommée en juillet dernier. Elle est arrivée à Niamey le 19 août, quelques semaines après le coup d'État du CNSP. Le destin de l'humanité est en jeu. Faites en sorte que cette conférence sur le climat compte. Cette déclaration du secrétaire général de l'ONU a été adressée aux dirigeants du monde. C'est à l'occasion de la COP28 en cours à Dubaï. Au même moment, la société civile africaine invite les chefs d'État africains et ceux des pays développés à prendre des mesures au bénéfice des communautés locales. Ousmane Birama Konaté, chargé de projet changement climatique et droits des enfants à l'ONG AFAD, participe à cette COP. Il réagit au micro de notre envoyé spécial Mohamedou Touré.
La société civile exhorte les pays du Nord, c'est-à-dire les pays pollueurs, et à réaffecter les subventions alimentaires mondiales aux principaux producteurs commerciaux pour l'agroécologie. La société civile attire l'attention des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sur le fait que le financement climatique devrait se chiffrer en milliers de milliards de dollars et non en milliards. La société civile rejette les marchés du carbone et leur propagation comme moyen de répondre aux besoins de financement climatique de l'Afrique, car ils constituent une fausse solution. Selon un rapport du groupe inter-d'État sur l'évolution du climat, l'Afrique a subi des pertes annuelles de 7 milliards de dollars à cause du changement climatique entre 2010 et 2019. Et si nous continuons sur des scénarios d'émissions élevées, ces chiffres pourraient atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2040. Cela pourrait entraîner une réduction de 2 à 4% de la croissance du produit brut de l'Afrique par an d'ici 2040.
Autre aspect de ce journal, les personnes handicapées ont célébré hier 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Une occasion de voir comment ces personnes sont vues dans la société et leur inclusion. Les personnes handicapées d'Arlit vivent des conditions difficiles selon le président de leur association, Ibrahim Yahaya Djadi. On l'écoute au micro de Moutari Abdoulaye.
Avec tout ce qui se passe comme activité en ville, ici à Adelaide, nous ne sommes pas informés, alors que nous devons être considérés comme tout le monde. Mais notre avis n'est pas pris en compte lors des grandes réunions de prise de décision, alors que nous, nous voulons être inclus dans toute activité qui concerne le développement local, parce que là, nous nous sentons vraiment à l'écart. Nous voulons vraiment être pris en compte à travers nos associations lors de ces genres d'activités. Au lieu d'aller mendier, nous voulons travailler, parce que nous avons cette capacité-là. Il y a certaines activités dans lesquelles nous pouvons être insérés, comme le nettoyage de la ville par exemple. Nous voyons juste les autres faire, alors que les malentendants sont même écartés. Et même les agents de nettoyage dans les hôpitaux, ces malentendants-là peuvent être inclus aussi. Au moins 5 parmi eux, voire 10, hommes et femmes, puisqu'ils en sont aptes. Nous voulons vraiment que les autorités pensent à nous et nous prennent en compte aussi, car nous sommes tous égaux.
Direction Tillabéri, où plus de 180 personnes déplacées de Banibongou ont reçu chacune 10 têtes de chèvre et un bouc comme appui à Balayara. Cet appui est rendu possible grâce au concours du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Écoutons les explications de Bourey Maïsaka, président des déplacés de Balayara, au micro de Hassan Moumouni.
Dieu merci. Nous remercions le CICR qui est venu s'entretenir avec nous ici avant la saison pluvieuse pour nous expliquer que la structure s'est engagée à appuyer les producteurs agricoles durant cette campagne. Ensuite, les maraîchers et les éleveurs que nous avons demandé de soutenir aussi parce que la majorité d'entre nous déplacés ici ont pour activité principale l'agriculture, l'élevage et le jardinage qu'ils ont découvert ici. En plus, ils ont choisi parmi eux environ 180 personnes qui ont reçu chacun 11 chèvres. Tous ces bénéficiaires ont été sensibilisés et formés sur les techniques d'élevage. C'est pourquoi le choix a été porté sur les bras valides, capables d'un suivi rigoureux de ces animaux pendant au moins 16 mois. La première vague de bénéficiaires a été servie. Et pour la deuxième vague, nous attendons l'arrivée des animaux pour les désintéresser.
50 participants issus des organisations de la société civile et des leaders communautaires de 12 communes de la région de Diffa étaient du vendredi 1er au dimanche 3 décembre en atelier de formation sur les droits de l'homme et les voies de recours. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a organisé la rencontre Diffa vivant au rythme de l'état d'urgence depuis 8 ans. La formation tient sa place. Mara Mamadou, coordonnateur du collectif des organisation de défense des droits humains est au micro de Mani Moussa.
Que l'État assure les droits, qu'on prenne les dispositions qu'il faut pour que le citoyen rentre dans ses droits. Si cela fait défaut, qu'on fasse de sorte que les droits ne soient pas bafoués, entre les citoyens eux-mêmes ou avec les autorités comme les forces de défense. Qu'on sensibilise la population sur leurs droits. Car vous savez, l'ignorance nous conduit soit à piétiner les droits d'autrui, ou si nous-mêmes nous ne connaissons pas nos droits, ni les droits des autres. Si tu ignores donc ces droits, tu peux les piétiner. Et répression s'ensuit, car on ne prétexte pas ignorer les droits. Que chacun fasse attention à ne pas rentrer dans les droits d'autrui. Que l'on se comprenne et cherchons solution. Et si vos droits sont piétinés, ne vous faites pas justice. La société civile que nous sommes est là ou allez directement chez le juge.
Le week-end à Dakoro a été un peu particulier, il était sans eau ni électricité. Le problème d'eau est de plus en plus critique à Dakoro où, par exemple, dans la journée d'hier dimanche, plusieurs familles se sont retrouvées sans pouvoir préparer à manger. On écoute la réaction de quelques citoyens au micro de Adamu Umaru.
Le problème n'a jamais été résolu dans la ville de Dakoro. On ne connaît pas les raisons de ce problème d'eau. Manque d'électricité ou le manque de carburant, ou bien il y a un refus d'alimenter les générateurs. Depuis 6 heures du matin, on n'a ni l'eau ni l'électricité jusqu'à présent. On était obligé de payer les sachets d'eau pour préparer à manger.
Moi, je suis là depuis 14 heures, disons depuis midi. Un enfant m'a dit il faut qu'il remplisse son récipient avant moi. Je me suis opposé car je l'ai devancé. Il a insisté et j'ai cédé. À peine il a fini, un autre enfant fait son arrivée avec la même intention de prendre avant moi. Je lui ai cédé la place aussi. J'ai commencé à remplir et l'eau s'est arrêtée pendant que le bidon était à moitié. Et depuis lors, je suis là. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau, même pas un signe.
C'est pas une raison que cette coupure d'eau dure aussi longtemps, presque toute une journée sans eau. À ce que je sache, c'est pas un problème de carburant. Si c'est ça, on peut acheter. On paye les factures.
Bon. Parlons sport dans cette édition. La reine de lutte traditionnelle d'Agadez est techniquement prête pour abriter les combats de la 44e édition du Sabre national qui se tiendra du 22 au 31 décembre 2023. C'est ce qu'a annoncé le directeur technique de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle lors d'une visite de terrain le samedi 2 décembre. Malambarka Kouda se réjouit des travaux effectués. Il est au micro de Moussa Maman.
La reine est prête, on a vérifié aussi l'éclairage, c'est ça la reine. Si le dispositif est bien fait, vraiment la réussite est garantie. Et ce que j'ai vu, vraiment ça me réconforte en tant que technicien. On peut organiser tout événement de la lutte sur cette arène aujourd'hui même. À notre arrivée, j'étais surpris, vu le peu de temps, le travail qui a été abattu. Vraiment c'est impressionnant. Et il y a quelques retouches à faire, on est en contact direct avec le directeur de l'urbanisme. Ils ont pris un engagement ferme de finaliser ça d'ici le jeudi. C'est des retouches qu'il fallait faire. Mais sinon, ils ont sérieusement travaillé. On a été même dans la MJC. Là aussi, c'est formidable les dispositions prises parce que le sabre incarne les activités sportives et les activités culturelles. Et de là, on a pensé à l'hébergement. On a été dans des écoles et dans un centre. Vraiment, c'est formidable.
La partie magazine de ce jour nous éclaire sur le délit de fuite selon la loi. Le délit de fuite constitue le fait pour un conducteur d'un véhicule, sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, de ne pas s'arrêter afin d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qui pourrait lui incomber. Attaher Liman Ahmed Agak, magistrat, est au micro d'Anissé Karim.
Monsieur le magistrat, qu'est-ce que le délit de fuite?
Le délit de fuite définit le fait pour tout conducteur d'un véhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue.
Dans quelle catégorie peut-on classer le délit de fuite?
Le délit de fuite traité au niveau du chapitre 7 de notre code pénal, chapitre qui est relatif à l'homicide et aux blessures involontaires. Donc la section 1 a traité de l'homicide et des blessures involontaires, et la section 2 est au délit de fuite.
Quels sont les éléments constitutifs du délit de fuite?
Suivant l'article 274 de notre code pénal, il faut qu'il y ait un accident provoqué ou occasionné par un conducteur d'un véhicule. Et ensuite, il faut qu'il y ait un acte matériel de fuite qui s'analyse au fait de ne pas s'arrêter, dans le but donc d'échapper à la responsabilité civile ou à la responsabilité pénale qui peut incomber à l'auteur de l'accident.
Quelles sont les sanctions du délit de fuite?
Et la sanction pour le délit de fuite à la lecture de l'article toujours de 174 et d'un emprisonnement de 1 à moins de 10 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Que peut-on retenir du délit de fuite?
Bon, le délit de fuite, c'est le fait tout simplement pour une personne, après avoir causé ou occasionné un accident de circulation, de fuir sa responsabilité, donc de tenter d'échapper à la responsabilité en ne s'arrêtant pas donc au lieu de l'accident qu'il a provoqué.
D'autant confondre le délit de fuite à la non-assistance aux personnes en danger. Qu'en est-il?
Il ne faut pas confondre délit de fuite et délit de non-assistance à personne en danger, qui s'analyse comme l'omission d'une personne de porter secours à une personne en péril, alors qu'elle pourrait le faire sans risque particulier pour elle-même. Ce délit n'inclut donc pas forcément la fuite de la personne.
Qu'est-ce qui distingue le délit de fuite au refus d'obtempérer?
Le délit de fuite doit être distingué du refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer qui est le fait pour une personne de ne pas obéir à un ordre légitime qui lui a été donné par un agent de l'autorité publique.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce Airtel gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.